Divers systèmes sur la nature de l'âme, le néant, Dieu formé par la matière, conscience, Jean-Jacques Rousseau. Le panthéisme, débouté de sa demande, n'empêche pas les chicaniers du néant d'intenter de nouveaux procès. Sans résoudre les difficultés des systèmes qu'ils préconisent, sans s'arrêter aux objections qu'on leur oppose, ils s'écrient « Champions de l'âme, mettez-vous au moins d'accord entre vous. L'âme est-elle une substance mouvant d'elle-même, comme le dit Platon ? Une nature sans repos, comme le prétend Thalès ? Un mouvement d'essence, comme l'avance Asclépiade ? Hésiode et Anaximandre la composent de terre et d'eau, Parménide de terre et de feu, Empédocle de sang, Posidonius, Cléante la tiennent pour la chaleur, Hippocrate pour un esprit répandu dans tout l'être. Varron, pour un souffle reçu sur les lèvres et mis en jeu par le cœur. Zénon, pour la quintessence des quatre éléments. Héraclide de Pont, pour la lumière. Les Égyptiens en font un nombre, les Chaldéens une vertu sans forme. Aristote la nomme en téléchie, Hideste le principe normal, la perfection abstraite. Hippocrate et Hiérophile établissent son siège au cerveau. Les stoïciens, au cœur, Aristote et Démocrite, dans le corps entier, Épicure, dans l'estomac. Et la preuve, dit Chrysippe, c'est qu'en prononçant le mot « ego », moi, la mâchoire inférieure descend vers l'estomac. Enfin, les pères de l'Église ont varié sur le siège et la nature de l'âme, et le dogme de son immortalité n'a été fixé, parmi les chrétiens, que vers la fin du XIIe siècle. Parmi les modernes, les plus grands génies religieux, tels que Pascal, Leibniz, Newton, Euler, n'ont pu arriver à des preuves positives. Voilà certes une argumentation puissante. Parce que, en ce monde matériel, nous ne pouvons parvenir à toucher du doigt et de l'œil une chose immatérielle, il en faut conclure que cette chose n'existe pas. Mais touchez-vous la pensée ? Quoique vous sachiez très bien qu'elle existe et qu'elle vous survit. Les folies mêmes de ces inventions philosophiques ne prouvent-elles pas une conviction unanime de l'existence de l'âme, dont on ignore seulement le mode et la substance ? Descendus des entrailles qui nous portèrent, avions-nous la moindre idée du temps et de son empire lorsque nous y fûmes introduits ? Les entrailles de la terre, notre seconde mère, nous infanterons à l'éternité dont nous n'avons pas aujourd'hui la plus légère notion. Nous y trouverons un soleil, comme nous en trouvâmes un lorsque nous quittâmes le sein de notre première mère. La faiblesse a été placée aux deux bouts de notre carrière, comme le crépuscule aux deux extrémités du jour. À notre naissance, nous n'avions ni force, ni mémoire, ni intelligence. À notre mort, nous serons dans ce même état. Mais la Providence nous recevra dans ses bras en sortant de la vie, ainsi que notre nourrice nous y reçut en y entrant. L'aveugle né ne se dépeint point la vue. Le sourd muet n'a aucune donnée pour apprécier l'ouïe. L'enfant est inapte à la passion la plus vive de l'homme. Comment donc dans la nuit, le silence, la puérilité où nous vivons, comprendrions-nous la lumière, l'harmonie et la volupté du ciel? Mais vous, néantistes, qui avez la superbe de votre rien, me l'expliquerez-vous? Je l'adopte, quoi qu'il m'en coûte, si vous me le faites toucher au doigt et à l'œil. Grâces à Dieu, cela n'est pas dans votre puissance. J'ai peur qu'à l'heure du naufrage, vous n'ayez plus vous-même votre négative conviction. Vous implorerez le port de salut dans ces régions de la mort où vous n'apercevez aujourd'hui qu'une côte inhospitalière et désolée. Vous jetterez pêle-mêle à la mer, pour sauver votre vaisseau, le lest aride dont vous l'avez encombré, vos systèmes. Il sera trop tard. Vous vous enfoncerez dans les flots entre une foi ébranlée et non détruite et une foi naissante et non affermie, entre l'horreur du néant et l'épouvante de l'éternité, ayant perdu l'espérance aveugle du premier et n'étant pas arrivés à l'espérance éclairée de la dernière. Si vous repoussez l'épreuve de la vie, je vous somme de me démontrer la mort. Quelle est-elle ? Traînez-vous dans les lieux communs de l'athéisme et du matérialisme. Je me charge de déduction en déduction de vous acculer à l'absurde. L'Orient a été plus loin que les autres contrées de la terre dans ses abominables et stupides systèmes. Ses efforts ne l'ont conduit qu'à ce galimatia désespéré. La mort, dit une philosophie indienne, est sortie de son propre néant. Elle devient la vie du temps dans l'espace, parce qu'elle fait sentir le temps en le mesurant. Ainsi, ce que nous prenons pour la vie n'est que la mort. L'homme qui a bien compris la mort, qui sait la mort, devient cette mort. Il est l'esprit qui est la mort. Quand la mort sera rentrée dans le néant dont elle n'est qu'un mode, le temps et l'espace qui n'existent que par la mort finiront. Et le néant sera l'être suprême qui engendrera tout par la mort. L'incisive et subtile poésie de ce platonisme athée est remarquable. Mais il faudrait plaindre le cerveau assez infirme pour avoir le malheur de l'entendre. Si le brahmane est resté assis 3 ou 4 000 années à méditer cela en se laissant manger aux mouches et livrant le peuple qu'il débilite au premier envahisseur venu, s'est employé un peu trop de temps à la composition d'un hymne à la mort. Nous n'avons qu'une base certaine de calcul, notre pensée, pour obtenir Jéhovah, l'ego sum qui sum. L'intelligence humaine est la seule raison péremptoire du fait de l'intelligence divine. L'homme est la preuve de Dieu. Chaque homme est un messie envoyé du néant pour révéler la vie suprême. De là peut-être ce rêve extraordinaire d'un philosophe germanique. Dieu n'a pas créé la matière. La matière, au contraire, a créé Dieu par l'opération de l'homme. L'homme est un animal doué d'un organe propre à dégager l'esprit de la matière. Cet organe est le cerveau qui sépare l'idée du bloc inanimé. L'idée, une fois extraite, ne s'anéantit point. Les idées augmentant de nombre s'unissent en vertu de leurs affinités élémentaires et commence l'individualité d'un être intellectuel. Cet être n'est pas encore achevé parce que toutes les idées ne sont pas encore émises, mais quand elles le seront, elles composeront de leurs agrégats un Dieu unique, une âme égale à l'amplitude de l'univers. L'espèce humaine, que son long enfantement de l'idée aura fait dépérir, mourra comme une mère épuisée. Le monde matériel se trouvera changé dans un monde spirituel par cette évaporation ou transfusion insensible. Une chose reste de toutes ces extravagances, l'accord des diverses opinions sur les hautes destinées de l'homme. Mais n'allez pas entretenir les incrédules de ces opinions lorsqu'elles tendent à la démonstration d'une existence outre-tombe. Leur exposez-vous les théorèmes de Clarke, espèce de géométrie transcendante de notre immortalité ? Ils rient, et cependant ils ne sont pas des Clarke. Objectez-vous à leur mécréance la voix de la conscience, invoquée de Rousseau ? Ils rient, et cependant ils ne sont pas des Jean-Jacques. Qui sont-ils ? Ordinairement les plus médiocres créatures de ce monde, décidées à refuser à leur âme la vie qu'on n'accordera pas à leur mémoire. Toi qui, jusqu'au Très-Haut, veux porter ton délire, t'assieds-tu près de lui dans le céleste empire ? Vis-tu le Créateur dans les premiers moments de ce vaste univers creuser les fondements, des vents et des saisons mesurer la richesse, et jusque sous les flots promener sa sagesse ? Des portes de l'abîme as-tu posé le seuil ? As-tu dit à la mer, brise ici ton orgueil ? Misérable d'Adam, quoi, vermisseau superbe, tu veux comprendre Dieu quand tu rampes sous l'herbe ? Admire et soumets-toi, le néant révolté peut-il dans ses desseins juger l'éternité ? Entre parenthèses, Moïse en 1822 était fait, mais il n'était pas publié. Paris, note de 1834, voir Moïse, acte 4, scène 1, note de l'auteur. Écoutons le vicaire savoyard.
Guillemet. Rentrons en nous-mêmes, ô mon jeune ami. Examinons tout intérêt personnel à part, à quoi nos penchants nous portent. Quel spectacle nous flatte le plus ? Celui des tourments ou du bonheur d'autrui ? Qu'est-ce qui nous est le plus doux à faire et nous laisse une impression plus agréable après l'avoir fait, d'un acte de bienfaisance ou d'un acte de méchanceté ? Pour qui vous intéressez-vous sur vos théâtres ? Est-ce aux forfaits que vous prenez plaisir ? Est-ce à leurs auteurs punis que vous donnez des larmes ? Tout nous est indifférent, disent-ils, hors notre intérêt. Et tout au contraire, les douceurs de l'amitié, de l'humanité, nous consolent dans nos peines. Et même dans nos plaisirs, nous serions trop seuls, trop misérables, si nous n'avions avec qui les partager. S'il n'y a rien de moral dans le cœur de l'homme, d'où lui vient donc ces transports d'admiration pour les actions héroïques, ces ravissements d'amour pour les grandes âmes ? Mais quel que soit le nombre des méchants sur la terre, il est peu de ces âmes cadavéreuses devenues insensibles, hors leur intérêt, à tout ce qui est juste et bon. L'iniquité ne plaît qu'autant qu'on en profite. Dans tout le reste, on veut que l'innocent soit protégé. Il nous importe sûrement fort peu qu'un homme ait été méchant ou juste il y a 2000 ans. Et cependant, le même intérêt nous affecte dans l'histoire ancienne que si tout cela s'était passé de nos jours. Que me font à moi les crimes de Catilina ? Ai-je peur d'être sa victime ? Pourquoi donc ai-je de lui la même horreur que s'il était mon contemporain ? Nous ne haïssons pas seulement les méchants parce qu'ils nous nuisent, mais parce qu'ils sont méchants. Il est donc, au fond des âmes, un principe inné de justice et de vertu, sur lequel, malgré nos propres maximes, nous jugeons nos actions et celles d'autrui comme bonnes ou mauvaises. Et c'est à ce principe que je donne le nom de conscience. Mais à ce mot, j'entends s'élever de toutes parts la clameur des prétendus sages. « Erreur de l'enfance, préjugé de l'éducation » s'écrient-ils tous de concert. Il n'y a rien dans l'esprit humain que ce qui s'y introduit par l'expérience, et nous ne jugeons d'aucune chose que sur des idées acquises. Ils font plus. Cet accord évident et universel de toutes les nations, ils l'osent rejeter, et contre l'éclatante uniformité du jugement des hommes. Ils vont chercher dans les ténèbres quelque exemple obscur et connu d'eux seuls, comme si tous les penchants de la nature étaient anéantis par la dépravation d'un peuple, et que sitôt qu'il est des monstres, l'espèce ne fut plus rien. Conscience, conscience, instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal qui rend l'homme semblable à Dieu. C'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions. On a beau vouloir établir la vertu par la raison seule, quelle solide base peut-on lui donner ? La vertu, disent-ils, est l'amour de l'ordre. Mais cet amour peut-il donc et doit-il l'emporter en moi sur celui de mon bien-être ? Qu'il me donne une raison claire et suffisante pour le préférer. Dans le fond, leur prétendu principe est un pur jeu de mots, car je dis aussi, moi, que le vice est l'amour de l'ordre, pris dans un sens différent. Il y a quelque ordre moral partout où il y a sentiment et intelligence. La différence est que le bon s'ordonne par rapport au tout, et que le méchant ordonne le tout par rapport à lui. Celui-ci se fait le centre de toute chose. L'autre mesure son rayon et se tient à la circonférence. Alors il est ordonné, par rapport au centre commun qui est Dieu, et par rapport à tous les cercles concentriques qui sont les créatures. Si la divinité n'est pas, il n'y a que le méchant qui raisonne. Le bon n'est qu'un insensé. Fin des guillemets. Que de raison et d'éloquence. Mais que sont l'éloquence et la raison à l'imbécillité suffisante et au parti pris de l'orgueil ? Quand ils ont dit « Je nie la conscience parce que je ne la sens pas. Je ne crois pas parce que je ne crois pas. » Il leur semble planer au-dessus des chétifs mortels. La conscience ne se prouve point à ceux qui l'ont étouffée. Le vice produit sur la conscience l'effet du vin sur le génie. Il l'abrutit. Le chien ne croit pas non plus, et il n'était une divinité qu'à Sinopolis, en Égypte. Combien d'idiots et de sots reconnus-tels m'ont assuré risiblement de leur incrédulité ? Beaucoup de pauvres gens croient en Dieu, j'en conviens, mais avec leur instinct et leur simplicité. Ils ne prétendent pas, comme la bête incrédule, être arrivés à leur conviction par l'excellence de leur judiciaire. Comment réfute-t-on les pages religieuses d'un homme qu'on admire ? On dit « Il ne croyait pas ce qu'il écrivait. Il soutenait un paradoxe pour faire du bruit et donner carrière à son talent. » Ou bien « Il a payé tribut aux préjugés de sa caste, de son éducation, de son temps. À cette époque, on n'en savait pas davantage. » Calomnie forgée, sentence rendue. Nous nous redressons de deux palmes, bénissant la nature d'être de si grands hommes et d'avoir été enfantés en un siècle, capables de nous admirer. Pauvre Jean-Jacques, tu perdais tes sueurs au pied des Alpes à prêcher ces aigles. Que ton ombre m'en croie. Contre les pédants de l'athéisme et les docteurs de mauvais lieux, le seul argument puissant est la négative. Ils attaquent, forcez-les à la défense, poussez-les dans une impasse. Réduisez-les à l'impossibilité de mettre quelque chose à la place de ce qu'ils prétendent renverser. Ainsi, vous soutenez que la conscience est l'intérêt général, la nécessité de l'ordre, la loi morale, à merveille. Mais qu'entendez-vous par l'intérêt général, la nécessité de l'ordre, la loi morale ? Prenez garde à votre réponse. Si vous vous perdez dans de nébuleux sophismes statistico-politico-moraux, vous prouvez que vous ne comprenez pas vous-même. Si votre définition de l'intérêt général, de la nécessité de l'ordre, de la loi morale est juste, il se trouvera que vous avez seulement changé les noms. Vos incrédulités n'auront abouti qu'à la reproduction forcée de la conscience et de Dieu. Rejetez-vous l'une et l'autre ? Évitez soigneusement de prononcer les mots de morale et d'ordre. Dites que l'empire est au plus fort, au plus méchant, aux chances du hasard, que la vertu est une incapacité, l'honnêteté une niaiserie, le juste et l'injuste une affaire variable et de convention. Et montrez-moi comment il est possible que la société marche ordonnée par la loi du désordre. Qu'est-ce que la matière ? Matérialisme et athéisme ? Orgueil déguisé. Que si l'on est déiste, il faut logiquement devenir chrétien. Et pourquoi ? Que la religion de la croix, loin d'être à son terme,
entre à peine dans sa troisième période. Je parle ici d'après ma propre expérience. Quand j'abandonnais les erreurs de l'essai sur les révolutions pour revenir aux principes du génie du christianisme, c'est par la preuve négative que je rentrais dans la vérité positive. Vous me niez, disais-je, les mystères de l'esprit. Moi, je vous nie les mystères du corps. Je vous défie de me prouver l'existence de la matière comme vous me défiez de vous prouver l'existence intellectuelle. La matière est-elle réellement ou n'est-ce qu'une image produite dans l'esprit, comme un songe dans les visions du sommeil? Et qu'est-ce que la matière si elle existe? Est-elle insensible ou animée? Chaque atome liquide ou solide, chaque grain d'eau ou de poussière vu au microscope, renferme des germes de vie. La matière, y compris le soleil et tous les mondes, serait-elle un immense animal formé de myriades d'animaux, mourant et ressuscitant sans fin? Ou plutôt, n'y a-t-il point de mort? Et la mort apparente n'est-elle qu'une modification de la vie? Alors j'adopte volontiers l'opinion de l'astronome, qui veut que le flux et le reflux de la mer soient la respiration de la terre. Si la matière est animée, quelle atroce loi l'oblige à se dévorer au moyen des diverses formes d'animalité qu'elle affecte? Les animaux se repaissent les uns des autres. Une guerre d'extermination se continue jusque dans une bulle d'air, un globule de rosée, une goutte de vinaigre ou de sang. L'homme mange tout, se mange lui-même, et est mangé vivant par des vers et des insectes. Et nous à la fois mets et convives à ce festin détestable. Nous ne fuirions pas au banquet des anges dans les tabernacles purs et resplendissants de la lumière incorruptible? Vous me direz que je ne puis nier l'existence de la matière qu'en recourant à des subtilités. Je vous réponds que vous ne pouvez nier l'existence intellectuelle que par des subtilités. Or, si rien n'est évident dans ce monde, si je suis placé entre deux mystères, la matière d'un côté, l'intelligence de l'autre, si tout est secret autour de moi, si je ne puis me rendre compte du moindre mouvement volontaire ou involontaire de ma pensée et de mon corps, si je ne sais comment je remue mon doigt ou mon idée, je me décide nécessairement pour la chose dont j'ai l'instinct et qui se lie aux vérités de la morale et de la société. J'aime mieux me jeter dans un abîme de lumière que dans un abîme de ténèbres. Que me proposez-vous en échange de ma foi? Votre incrédulité ou vos doutes? Mais votre incrédulité n'est pas plus forte en preuves et en raisons que ma foi. Quant à vos doutes, qu'est-ce qu'un doute, sinon une chose dont on peut douter? Si j'ai des doutes sur vos doutes, pourquoi voulez-vous que je croie à vos doutes? Vous êtes sceptique, et vous voulez que, fanatique de ce que vous avouez ne pas savoir, je devienne dogmatique de votre scepticisme. La religion de la servante du curé est plus rationnelle que cet embrouillement. L'athéisme et le matérialisme ne sont qu'un orgueil déguisé. On s'imagine être fort parce qu'on ne croit pas comme le vulgaire, parce qu'on pense avoir des qualités supérieures de compréhension, auxquelles les esprits faibles, les âmes molles, les imaginations poétiques ne peuvent arriver. Cette prétendue force est un manque de force. L'incrédulité annonce une impuissance à saisir les vérités de la nature intellectuelle, quelque chose qui manque à l'entendement, plutôt qu'une faculté qui surabonde. Le croyant pourrait pécher par excès, l'incrédule pêche très certainement par défaut. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un grand esprit, lequel ait toujours été à tous les instants athée ou matérialiste. Regardez-y de près, et vous verrez que ceux qui parlent avec certitude du néant sont ou des brutes, ou des personnes d'un caractère futile, ou des paradoxistes, ou des hommes d'un génie étroit et ignorant, ou d'un génie vaste et instruit, mais spécial et appliqué à un seul objet dans les sciences, les arts, l'érudition, ou même dans la haute poésie. S'il y a des exceptions, elles sont rares. Un homme supérieur, athée et matérialiste à 30 ans, doutera à 40, croira plus tard à Dieu et à l'âme, et s'il vieillit, il a des chances de devenir chrétien. Il y a 2 espèces d'esprits, les esprits religieux et les esprits incrédules. La première espèce est d'une nature supérieure à la seconde, et elle a produit les plus grands hommes, surtout depuis la propagation du christianisme. Témoins Bacon, Tycho Brahe, Leibniz, Newton, Euler, Pascal, Bossuet, Turenne, Bonaparte. Celui-ci, donnant à Vignali, son aumônier, les détails nécessaires pour la chambre ardente dont il voulait qu'on environnât sa dépouille, crut apercevoir sur le visage de son médecin, Antomarchi, un mouvement qui lui déplut. Il s'en expliqua avec le docteur et lui dit « Vous êtes au-dessus de ses faiblesses. Mais que voulez-vous ? Je ne suis ni philosophe ni médecin. Je crois à Dieu. Je suis de la religion de mon père. N'est pas athée qui veut. Pouvez-vous ne pas croire à Dieu ? Car enfin, tout proclame son existence, et les plus grands esprits l'ont cru. Vous êtes médecin. Ces gens-là ne brassent que de la matière. Ils ne croiront jamais rien. Forte tête du jour, quittez votre admiration pour Napoléon. Vous n'avez rien à faire de ce pauvre homme. Ne croyait-il pas qu'une comète était venue le chercher, comme jadis elle emporta César? De plus, il croyait à Dieu. Il était de la religion de son père. Il n'était pas philosophe. Il n'était pas athée. Il n'avait pas, comme vous, livré de bataille à l'Éternel, bien qu'il eût vaincu bon nombre de rois. Il trouvait que tout proclamait l'existence de l'être suprême. Il déclarait que les plus grands esprits avaient cru à cette existence, et il voulait croire comme ses pères. Enfin, chose monstrueuse, ce premier homme des temps modernes, cet homme de tous les siècles, était chrétien dans le 19e siècle. Nous avons vu au livre 6e de ses mémoires qu'il avait demandé le Saint Viatique, qu'il était mort un crucifix sur la poitrine et que son testament, de même que celui de Louis XVI, commence par ces paroles. « Je meurs dans la religion apostolique et romaine dans le sein de laquelle je suis né. » Je vous le disais donc, un homme supérieur qui croit à Dieu et à l'âme, s'il vieillit, a des chances de devenir chrétien. Le christianisme est la conséquence logique du déisme. Dieu et l'âme admis, l'obligation de les expliquer arrive. Il faut bien examiner, et la nature humaine, et ses relations avec la nature divine, sous peine de rentrer, par les difficultés morales, dans l'abîme du doute. C'est ce qu'un génie aussi saint, aussi ferme, aussi complet que celui de Bonaparte, aperçut aussitôt que la jeunesse, la politique, l'ambition, les passions diverses, eurent cessé de l'aveugler et de troubler son regard d'aigle. Répliquera-t-on que le déisme n'amène pas rigoureusement le christianisme pour rendre raison du mal moral, ainsi qu'il plaît de le soutenir, qu'on peut croire à Dieu, à l'existence de l'âme, au dogme des châtiments et des récompenses, sans être chrétien, et que par cette religion naturelle, le mal moral est parfaitement expliqué? Le mal moral sans être chrétien? Non. Les récompenses et les châtiments après la mort ne résolvent pas le problème. Quelle nécessité y avait-il à Dieu de combler le crime de prospérité, d'accabler la vertu de misère, de faire triompher l'oppresseur, d'abandonner l'opprimé, afin de se donner la satisfaction de redresser tous ses torts dans l'autre monde? Le méchant ne serait-il pas autorisé à s'écrier du milieu des flammes « Vous m'avez encouragé dans mes iniquités en me surchargeant de vos bienfaits. J'ai pu croire par vos faveurs même à ma droiture, et vous me punissez ?» la religion naturelle ne rend donc pas compte du mal moral. Cette religion laisse Dieu injuste. Or, s'il est injuste, il n'existe plus. Vous voilà redevenu athée avec la volonté de ne l'être pas. Quoi qu'il fasse, le déiste de bonne foi est forcé de croire à la désobéissance biblique, laquelle a introduit dans le monde intellectuel le mal moral, et dans le monde physique la dépravation matérielle. Ces deux mondes s'étant altérés à la fois, et la matière même, telle que nous la voyons, devant peut-être son existence à la déviation spirituelle. Cette opinion adoptée, peu m'importe le reste. Vous appartenez à ce christianisme universel dont on trouve la tradition dans tous les cultes. La différence entre vous et moi est que vous n'allez pas jusqu'à la personne du Christ où vous arriverez un jour, si vous êtes conséquent. Le Christ est le révélateur de la vérité générale dont vous avez la réminiscence. En son sacrifice, s'est trouvée l'explication du mal moral. Il y a eu faute, déviation, et il a fallu pour l'expier que le juste portât la couronne d'épines. Le Rédempteur, éclatant de toutes les lumières, de toutes les vertus et de toutes les afflictions répandues sur la terre depuis la création, résume l'humanité entière, hors la corruption dont il était exempt par sa nativité virginale. Homme, s'il est un Dieu sympathique à ta nature, c'est le Christ en qui sont personnifiées et divinisées tes douleurs. Quoi, le christianisme ne serait rien en principe quand nous sommes les témoins de ses conséquences prodigieuses? Le changement de l'ancien monde, le renouvellement de la société, ne commence-t-il pas à la plantation de la croix? C'est trop rapetisser Dieu, disent d'autres argumenteurs, que de renfermer ses soins dans les bornes étroites de la terre. Nos tribulations, comme nos joies, sont liées aux lois de l'univers. Parmi ces millions de globes roulant dans l'espace, un insecte de notre nature occupe-t-il exclusivement le souverain des mondes? Sans doute, nous tenons notre place dans la chaîne des créatures, comme le vermisseau que nous écrasons sous nos pas. Sans doute, la partie intellectuelle de notre être aura sa route marquée à travers ces sables de soleil jusqu'au trône de Dieu. Mais allons-nous évaluer à quelque chose notre vie d'une minute, notre misère d'une seconde? Dans l'existence de l'éternité et la profondeur des desseins de la Providence? Ces raisonnements pompeux viennent précisément de l'infirmité de notre raison. Les songes les plus magnifiques sortent des cerveaux les plus malades. La plus grande justice ne se compose point de petites injustices. Si Dieu était injuste envers un seul insecte, s'il ne pouvait établir l'harmonie des sphères qu'aux dépens de cet insecte, il serait inique et impuissant, il ne serait pas Dieu. On a dit que la petite morale tuait la grande. Antithèse sophistique d'une mauvaise conscience, qui, loin de trouver son application aux œuvres divines, n'est pas même vraie dans les œuvres humaines. Non, mon mal particulier n'est point nécessaire au maintien du bien général. Je ne puis trouver de cause légitime à mes accablements qu'en moi-même, par l'abus que j'ai fait de ma liberté, par l'obligation où je suis d'être éprouvé, afin de me revêtir de cette innocence originelle à laquelle était attaché mon bonheur. Tous les raisonnements ramènent ainsi au christianisme. Encore ne pourriez-vous, ces délices orientales, qu'en renonçant au christianisme, or, ne vous imaginez pas que vous conserverez les notions supérieures de justice, les idées vraies sur la nature humaine et les progrès de tout genre que le christianisme a fait faire à la société. Son dogme est la garantie de sa morale. Cette morale sera bientôt étouffée par les passions non gouvernées du mort de la foi. On ne retrouve pas les hautes vertus chrétiennes là où le christianisme a passé et s'est éteint. Voulez-vous devenir chinois ou redevenir romain, radoté peuple vieillard en robe jaune ou rétrogradé vers la civilisation antique? Dans ce dernier choix se rétabliront nécessairement les deux bases de l'édifice païen. La servitude et la tyrannie seulement, elles, changeront de forme. Viendront avec le temps les ornements obligés de cette société, la prostitution théâtrale, les gladiateurs, les cochers du cirque, le tout sous le bon plaisir des prétoriens modernes qui garderont avec l'artillerie le parcage de ces nouveaux esclaves qu'on nomme prolétaires et la maison dorée des Nérons constitutionnels. Le christianisme est l'appréciation la plus philosophique et la plus rationnelle de Dieu et de l'homme. Il renferme les trois grandes lois de l'univers, la loi divine, la loi morale, la loi politique. La loi divine, unité de Dieu en trois essences. La loi morale, charité. La loi politique, liberté. La chute de l'homme et le sacrifice du Christ ne sont plus aujourd'hui des mystères. La faute et l'expiation restent l'histoire la plus touchante et la plus profonde de l'humanité.